France Inter.
Hello.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good.
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui, troisième épisode, nous allons aborder la face soul et funky de notre héros. Et ça a commencé comme ceci.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Hard to get you in on my life. Do what can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you in the
En moins de 2 minutes 30, une chanson soul signée par les Beatles et chantée évidemment par Paul McCartney en 1966, qui vous prenait, qui vous prend toujours aux tripes. Je me rappelle encore aujourd'hui l'effet qu'elle me faisait à l'âge de 8 ans. C'était l'avant-dernière chanson de la seconde face de l'album Revolver, juste avant la chanson psychédélique super bizarre qui concluait l'album et qui me faisait très peur, Tomorrow Never Knows. J'avais bien sûr pas pris de drogue à cet âge-là, j'en ai pas beaucoup pris depuis non plus d'ailleurs, mais cette chanson et une grande partie de l'album Revolver avaient pour moi quelque chose de toxique et de vénéneux. Dès qu'on écoutait ce grand disque, mon frère et moi, j'avais comme la tête qui tournait, je sentais des parfums mystérieux, j'avais l'impression qu'une espèce de gouffre fascinant s'ouvrait devant moi, tout un cosmos invisible, bien plus excitant que le monde qui m'entourait, sensible et palpable. Et bien l'enfant que j'étais était loin de mesurer à quel point il avait tout compris. Parce que la chanson que vous venez d'entendre, Got to Get You Into My Life, est en fait une ode à un stupéfiant que Paul McCartney venait de découvrir, la marijuana. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. J'étais seul, je suis parti loin, je ne savais pas ce que j'allais trouver là-bas. Évidemment, une fois qu'on a la clé, et Paul McCartney l'a donnée plus d'une fois, ça paraît parfaitement limpide. L'histoire est connue à l'été 1964, les quatre Beatles séjournent dans la suite d'un hôtel new-yorkais et Bob Dylan, qui vient de publier l'album Another Side of Bob Dylan, est là. Il est accompagné de son ami et homme à tout faire, Bob Newhoff, à tout faire et à tout fournir aussi. À l'époque, comme Paul McCartney l'écrit dans son passionnant beau livre Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, illustrés de plein de photos d'archives rares, documents intimes, manuscrits, etc. On carburait, je cite Paul, au whisky coca et au vin français. Bref, Bob Dylan, à un moment donné, se rend dans une autre pièce où Ringo le rejoint. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Ringo revient et dit aux autres qu'il a l'impression que le plafond est en train de bouger. Ça y est, il est initié. Les autres font comme lui, y tirent une taffe, puis une autre sur le pétard que Dylan leur a fait passer. Il commence par se regarder et à se dire « bon, ça fait absolument rien », avant de partir, phénomène connu dans un fou rire collectif. Alors, je reviens à la chanson. Paul est on ne peut plus explicite à son sujet, je le cite à nouveau. « Je trouvais ça marrant d'écrire une chanson qui racontait « Il faut que je te fasse entrer dans ma vie en étant le seul à savoir de quoi ça parlait vraiment ». Dans le livre de souvenirs que son ami londonien, le journaliste Barry Miles, a recueilli, qui s'appelle « Many Years From Now », Paul McCartney précise « Il y a des gens qui font l'éloge du chocolat ou d'un bon vin, moi, j'ai simplement écrit une ode à l'herbe. » Comme quoi, certains professeurs, parents et adultes en général de l'époque n'avaient pas si tort que ça quand ils nous répétaient que la pop musique, comme on disait alors, était une musique de drogués. Autre chose, il est étonnant que quand on souligne que Paul McCartney est un grand chanteur soul, nombre d'amateurs, et pas forcément les plus ignorants, s'étonnent. Pourtant, « Got to get you into my life » en est le témoignage éclatant. Durant cette période, Paul sort beaucoup à Londres. Et dans les boîtes où il va, on passe beaucoup de disques de chanteurs et chanteuses soul, Sam & Dave, Wilson Pickett, Joe Tex, etc., etc. Au milieu des années 60, ces orchestrations de cuivre pétaradantes sur des rythmes très rapides, cette musique soul qui se fabrique dans le sud-est des États-Unis, des studios Stax à Memphis ou de Muscle Shoals dans l'Alabama, c'est tout à fait nouveau. Et le style vocal de ces chanteurs à la voix grésillante, comme en extase, ne pouvait que stimuler Paul McCartney, déjà disciple du hurleur frénétique qu'était Little Richard, lequel avait inspiré aux Beatles des chansons comme I'm Down, on l'a entendu dans le premier épisode de cette série que je consacre à Paul McCartney. Voici maintenant une chanson qui n'est pas tout à fait dans le même style. Tout le monde ou presque connaît Oh Darling, c'est une chanson qui figure sur la première face de l'album Abbey Road, paru à la fin de l'année 69, le dernier album publié du vivant des Beatles. Une chanson qui doit autant à Lennon qu'à McCartney, écrite et interprétée dans un style délibérément rétro. McCartney raconte qu'il a pris l'interprétation de cette chanson très au sérieux et que pendant les séances de l'album avorté Get Back en janvier 69, dès qu'il arrivait en studio, il s'essayait à chanter cette chanson avant que sa voix ne s'altère au fil de la journée. Une dernière chose qui mérite d'être soulignée, c'est que John Lennon jugeait qu'il aurait mieux interprété cette chanson que Paul parce qu'elle était en fait davantage dans son style. Alors je sais que sur ces questions, il y a des positions extrêmement tranchées et que les débats entre inconditionnel de Lennon et inconditionnel de McCartney sont absolument impossibles à démêler. Il faut néanmoins rappeler qu'en cette période difficile du début de l'année 1969 qui a annoncé la décomposition des Beatles, eh bien c'est Paul McCartney qui a pris les rênes du groupe et Lennon avait la tête tout à fait ailleurs, comme en atteste le passionnant documentaire Get Back, constitué d'images d'archives retrouvées et montées par le cinéaste Peter Jackson. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm.
Just a little baby boy. Samuel Jones. I call your eyes every night since then, but I ain't never, no, no, never heard you calling me. Come on and call me back.
France Inter,
RTBF La Première.
Une chanson qui est un peu la petite sœur de Oh Darling des Beatles, bien moins connue cependant. Call Me Back Again est signée par le groupe Wings et figure dans un album qui s'appelle Venus and Mars, paru en 1975. Un album enregistré à la Nouvelle-Orléans dans le studio Seascent, créé par celui qui fut un des grands architectes de la musique de cette ville. J'ai nommé le pianiste Alan Toussaint. Une chanson sans prétention, au parfum très rétro en ce milieu des années 70, qui révélait une fois de plus l'aisance de Paul McCartney dans ce registre blues soul qui lui était naturel et dans lequel il excellait. Le rythme en est de fait très Nouvelle-Orléans, ça pourrait être une chanson de Fats Domino, mais le chant hurlé est bien moins bonhomme et beaucoup plus brûlant. Juste avant une interprétation sur scène devant le public du Forum de Los Angeles en juin 1976 d'une des meilleures chansons de McCartney avec Wings, co-signée avec sa femme Linda, un pur blues, Let Me Roll It. Dans son livre, Paul McCartney parle de cette chanson avec beaucoup d'éloquence. Il évoque le riff de guitare qu'il qualifie lui-même de, je cite, « torride ». Ça c'est marrant, c'est plutôt un adjectif de critique de rock. Enfin, « Je ne peux pas te dire tout ce que je ressens, mon cœur est comme une roue, laisse-moi le faire rouler vers toi. Je veux te le dire, oui, c'est le moment. » Hein, je cite les paroles là vraiment mot à mot. En fait, le gars de la chanson a envie, mais il n'y arrive pas vraiment. Il s'élance et il s'arrête, paralysé. Et le riff et les paroles fusionnent pour exprimer cette hésitation que vivent en même temps la tête et le corps. Alors, il faut que je vous fasse un peu une confidence. J'ai un souvenir très précis de cette période. J'avais 17 ans, j'étais en terminale. En 1976, oui, ça date. Et j'étais obsédé par les Beatles, et en particulier par le fait qu'ils n'existent plus. Ce qui me paraissait une malchance indescriptible. J'attendais qu'ils reviennent, comme certains, j'imagine, peuvent attendre le retour du Messie. Et je vais être franc, je n'aimais pas Wings. Je n'aimais pas les vestes noires à paillettes de McCartney à l'époque, presque les mêmes que celles de Clo-Clo, hein, Claude François, sa coupe de cheveux moche et ringarde. Je n'aimais pas le style funky des chansons de Wings, que je trouvais carrément insipide, j'avais l'impression qu'il copiait Elton John. L'adolescent que j'étais estimait que Paul McCartney avait trahi l'enfance des Beatles, et croyez-moi si vous voulez, j'en étais presque dégoûté. Bref, j'étais quand même allé voir Wings dans, alors je ne sais plus quel hangar sinistre de la proche banlieue nord de Paris, parce que j'avais appris qu'il y avait au cours des concerts de Wings un intermède Beatles, et que Paul McCartney chantait au moins deux de mes chansons préférées des Beatles, Yesterday et I've Just Seen a Face. Ce qui, dans ce contexte, relevait à mes yeux à la fois du miracle et du sacrilège. Et oui, ce fut pour moi qui avais joué des coudes pour être le plus près possible de la scène, un sacrilège d'entendre les hurlements de jeunes filles extatiques, tandis que je cherchais en esthète à me recueillir pour goûter la beauté classique de Yesterday. Et puis, évidemment, il y avait aussi ma préférée Blackbird. Et je l'avoue aujourd'hui avec honte, oui, les chansons de Wings, je m'en foutais complètement, j'attendais qu'elles passent. Ça paraît aussi débile qu'absurde aujourd'hui, et à moi le premier, mais enfin voilà, je vous assure que c'est vrai, oui, débile et absurde, surtout quand je réécoute les versions live absolument enthousiasmantes, pourtant, des chansons de Wings qui figurent dans le triple album vinyle hein, de Wings, Wings Over America, enregistré durant cette tournée de 76 à laquelle j'ai assisté, mais bon, à 17 ans, il faut croire que j'étais un autre. Wings Over America a été enregistré donc en grande partie au Forum de Los Angeles, mais les bandes ont par la suite été retravaillées au studio de Abbey Road à Londres, et tous les chœurs en particulier ont été complètement réenregistrés. Un collaborateur à venir de Paul McCartney, Elvis Costello, a dit à propos de cette période de Wings une des choses les plus justes qui soient. C'est que McCartney a refusé de s'appuyer sur sa réputation, avec beaucoup de courage. Il a attendu que son nouveau groupe emmagasine quelques succès avec son propre style avant de se remettre à chanter quelques chansons des Beatles sur scène. Et encore, n'était-ce que dans le cadre d'un intermède. Alors, évidemment, il existe des passerelles entre le McCartney des années 60 et celui des années 70 avec Wings. C'est même une des évidences que je tiens à souligner dans cette série d'émissions que je lui consacre, mais les différences l'emportent néanmoins largement. Oui, parce que dès le début de cette nouvelle décennie, l'ambiance n'est plus du tout la même qu'à la grande période des Beatles. Le hard rock s'est installé, les complexités de la musique dite progressive et du jazz rock séduisent un jeune public, et ce qui concerne davantage Paul McCartney, on assiste à l'explosion de la disco soul, du reggae, des rythmes et sonorités latins ou antillais. Et que fait McCartney à cette époque ? Eh bien, il cherche à capter les ondes de son temps, comme si celui des Beatles était déjà englouti. Prenez ce chant d'amour qu'il a écrit pour la femme qu'il avait rencontrée à la fin des années 60, la photographe américaine Linda Eastman, également musicienne et qu'il avait bien sûr intégrée à son groupe Wings. La chanson s'appelle My Love et elle doit beaucoup au style de ballade soul, rhythm and blues qui était en vogue au début des années 70. Elle a d'ailleurs été extrêmement populaire sur les radios de musique noire aux États-Unis. My Love avait quelque chose d'ouvertement sentimental, sans filtre, de même passéiste et de suavement désuet. Et ça, en 1973, ça pouvait agacer un certain public, celui qui cherchait dans le rock l'innovation ou la provocation. Cette version que je vous propose d'écouter de My Love a été enregistrée pendant cette fameuse tournée de Wings en 76 dont je vous parlais.
Very Good Trip, Paul McCartney.
When I go away,
stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love.
en été 1976 devant le public du Forum de Los Angeles pour McCartney et Wings dans un titre qu'on entendait pas mal à la radio, y compris en France, Listen to What the Man Said. Encore une chanson enregistrée à la Nouvelle-Orléans en 1975 à l'origine au studio C-Cent et marquée par ce rythme funky, jazzy, tropical et léger comme une brise marine, un typique donc de cette ville, un rythme très en vogue dans ces années-là. Écoutez les enregistrements de Dr. John, je pense à l'album In the Right Place ou encore l'album Nightbirds de la chanteuse LaBelle avec le célèbre Lady Marmalade et son fameux refrain en français « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Voilà. Ben vous pouvez tirer un fil à partir de là et ça vous conduit jusqu'à l'album Black and Blue des Rolling Stones paru en 75 ainsi qu'à Station to Station de David Bowie qui est sorti un peu plus tard, voilà, début 76. Beaucoup des musiciens de cette période sont influencés par cette vibration très particulière, latine et tropicale, qui parcourt tout l'est du golfe du Mexique, de Cuba à la Nouvelle-Orléans, en passant par les Bahamas et bien sûr Miami en Floride. En 1975, Pink Floyd publiait un album comme Wish You Were Here et Led Zeppelin, c'était Physical Graffiti, du lourd comme on dit. Et bien justement, face à tout ça, Paul McCartney et Wings ne pesaient pas très lourd. Et Listen to What the Man Said, qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est quoi ? Bah, c'est une chansonnette qui, en 75, parle d'amour qui va et qui vient sur un rythme funky jazzy. Les paroles, le style, ça pourrait presque être une chanson d'avant-guerre à la Fred Astaire, une de celles qu'aurait pu aimer le père de McCartney. Léger est d'ailleurs l'adjectif le plus aimable dont la critique use alors pour qualifier les chansons de Paul McCartney, et d'autres ne se gênent pas pour écrire et pour dire fade, insignifiant, niais, enfin j'en ai sûrement oublié. Il en a lui-même fait une blague et il a appelé justement une de ses chansons « Silly Love Songs », c'est-à-dire « chansons d'amour débile » au pluriel. On l'écoutera d'ailleurs lors d'un prochain épisode. Et voici ce qu'écrit à ce sujet dans son livre « Paroles et souvenirs » et je cite pour lui-même. « Au milieu des années 70, j'ai été accusé, y compris par John, de n'écrire que de « Silly Love Songs ». On attendait de moi, j'imagine, que je sois un mec plus dur, plus terre-à-terre. Et puis j'ai pris conscience que l'amour est la grande affaire de la terre entière. Il y a des gens, dit ma chanson, qui veulent couvrir la terre de chansons d'amour débiles. Et où est le problème ? J'aimerais bien le savoir. Cette réputation, continue à écrire Paul, me collait à la peau et je n'avais pas l'intention de céder. Plutôt qu'abandonner les chansons d'amour, j'étais décidé à continuer à en écrire sans aucune honte. On peut penser, écrit-il encore, que c'est un sujet mièvre, mais non, c'est justement le contraire. Cette chose que l'on ressent les uns pour les autres, c'est ce qui rend la vie meilleure. Le cœur du problème est là, c'est tellement facile d'être cynique. Et Paul McCartney conclut ce court texte par une évocation empreinte d'une rare franchise du sale caractère que John Lennon, le « dur » entre guillemets, a manifesté plus d'une fois à son égard. Et il fait à ce sujet une observation extrêmement juste. Les gens qui balancent des insultes et des injures à G continu sont en réalité des faibles qui veulent se faire passer pour forts et ne convainquent en fait personne, à commencer par eux-mêmes. Classique. Et il rappelle que John était souvent insultant parce qu'il avait de la rage en lui. Il jouait au dur parce que, comme il l'a avoué plus d'une fois à Paul, il débordait d'amertume. On le sait, sa mère l'avait abandonné, son père s'était barré, son oncle, qu'il adorait, était mort, et sa mère, alors qu'elle commençait à se rapprocher de lui, était morte, écrasée par une voiture. Il y avait de quoi, en effet, être dégoûté par la vie. Et Paul conclut ainsi. « Beaucoup de personnes ont tendance à ne pas montrer leurs émotions en dehors de leur cercle intime. Mais leur sensibilité est là, tout au fond d'eux-mêmes, toujours. Et c'est ce que je dis dans cette chanson « Love isn't silly at all ». L'amour n'est pas débile du tout. »
And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart.
Very good trip, Paul McCartney.
Stick around, I say, it's coming on.
Coming Up, une des dernières chansons signée par Paul McCartney, une version en public. Coming Up, ça a été un numéro 1 en 1980. Une des dernières chansons signées McCartney que ait pu entendre John Lennon. Il paraît même que celui-ci l'aimait bien. Il l'avait dit à Paul, même si leur rapport restait extrêmement tendu, qu'il leur arrivait hélas de bien s'engueuler au téléphone, parce que les comptes du divorce des Beatles ont longtemps été extrêmement difficiles à régler. Alors, dans Coming Up, en tout cas, on entend l'influence de la New Wave au sens historique du terme, même si c'est pas manifeste dans l'orchestration, mais c'est peut-être plus dans la version studio, l'influence d'un groupe comme les Talking Heads qui avait fortement impressionné Paul McCartney. Mais enfin, pour celui-ci, comme pour beaucoup de musiciens de sa génération, les années 80 vont être celles d'un purgatoire. C'est vrai pour les Stones, c'est vrai pour Pink Floyd, les Who ou encore Led Zeppelin. Bref, pour tous ceux qui, entre le milieu des années 60 et celui des années 70, ont été comme les messies d'un nouveau monde. Durant cette décennie nouvelle, 80, c'est la confusion totale. Les punks leur ont craché dessus, la vague disco les a démodés, les sons froids de l'électropop semblent même faits contre eux. McCartney s'en tire plutôt bien au début des années 80. Il co-signe et interprète trois tubes mondiaux, hein, un duo avec Stevie Wonder et deux autres avec Michael Jackson. Ce qui n'empêche pas que pour McCartney en solo, le succès va décrescendo. Et la relative modestie des ventes de l'album qu'il publie en 1986, Press to Play, déclenche chez lui une sorte de signal d'alarme. Il a alors une idée pour se relancer. Il prend contact avec un des auteurs de la nouvelle génération qu'il admire le plus, Elvis Costello. Costello, c'est alors une sorte de Bob Dylan du milieu post-punk qui est alors au sommet de sa cote critique. Les deux hommes se retrouvent face à face, guitare en main, se donnant pour mission de composer une chanson par jour. Alors Costello sait qu'il se mesure en fait à un fantôme, celui de John Lennon, qui fut le collaborateur régulier de McCartney une vingtaine d'années auparavant. Quant à McCartney, il veut aussi impressionner à sa façon Costello, lui montrer qu'il est capable de se remettre en cause et même de se mettre en danger en le suivant dans des zones plus sombres et plus tourmentées. C'est une collaboration électrique et comme dans un couple, ils se prennent parfois le bec. Un jour, McCartney remet Costello à sa place en lui disant quelque chose comme « Écoute, ça suffit, arrête de vouloir t'imposer tout le temps, t'as vraiment un ego qui passe pas les portes ». Dans une interview d'alors, McCartney déclare aussi que travailler avec Costello lui rappelle la vigueur de ses échanges avec John Lennon. Alors hélas, l'album Flowers in the Dirt, qui est sorti en 1989, ne reflète que partiellement l'intensité de cette émulation. Au moment de réaliser l'album, en effet, McCartney renonce à aller vers les orchestrations plus aventureuses, plus grinçantes que Costello lui suggère. Restent quelques chansons intenses, comme celle que je vous propose qui s'appelle « That Day Is Done ». L'album a été publié en 89, mais il est reparu en 2017 dans une édition dite « augmentée » qui accueillait beaucoup d'inédits, dont des maquettes. Et cette version de 1988 de « That Day Is Done » est d'ailleurs une maquette interprétée par McCartney tout seul.
« You want more vocal ? He wants more vocal !
I feel such sorrow, I feel such shame. I know I won't arrive on time before whatever out there is gone. What can I do? That day is done. It's just a promise that I made. I said I'd walk in her.
They announced a precious face.
like the first. There was applause when she stepped up. I wish that I
Inter,
RTBF La Première.
Paul McCartney. Very good trip.
Voici, avant de se quitter, une ultime chanson, un gospel crépusculaire, signée par Paul McCartney en 2020, donc c'est très récent. Une chanson extraite d'un album qu'il a réalisé pratiquement tout seul pendant le confinement, dans des conditions semblables à celles de son premier album solo, McCartney. Des conditions qu'il avait reproduites d'ailleurs 10 ans plus tard, en 1980, pour un album qu'il avait intitulé McCartney 2. Il a donc logiquement appelé celui de 2020, paru donc 40 ans après, McCartney 3. Cette chanson, Women and Wives, est une sorte de blues archaïque qui lui est venu comme ça au piano et qu'il a aussi joué à la contrebasse. Il faut souligner que Paul a racheté l'instrument, la contrebasse, qui appartenait à Bill Black, l'accompagnateur du grand Elvis Presley. Et malgré son ton lugubre, Women and Wives transmet des vibrations très positives, hein, on ne se refait pas. Ce que nous fait sentir McCartney arrivé dans l'ultime partie de sa vie, c'est qu'on transmet aux siens quelque chose de précieux, non pas par nos belles paroles et nos grandes idées, mais tout simplement par notre façon de vivre et nos actes quotidiens. C'est ça qui compte, dit Paul McCartney, c'est ça la vérité.
Hear me, women and wives, hear me, husband and lovers, what we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow doesn't get me down, chasing tomorrow. Can you tell me when tomorrow comes around that you set a good example to the children listening to you? Well, you can help them keep their feet upon the ground if you simply love them more than you ever loved before. Hear me, mothers and men. Hear me, brothers and sisters. Help the children and then they'll discover new vistas. Some of them may borrow tales you handed down, but they'll be chasing tomorrow.
Pour moi de remercier très chaleureusement Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission, également Élise Christophe à la technique, merci également à Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Dans l'épisode prochain, j'examinerai la face baroque et orchestrale de son œuvre avec les Beatles et également en solo.
Let's rock, à bientôt.